Voix d'Église, l'actualité protestante en région Cévennes, Languedoc, Roussillon.
Voix d'Église est une émission conçue et réalisée par trois radios partenaires de notre région Cévennes, Languedoc, Roussillon, en collaboration avec le journal régional protestant, le CEP. Autour de cette table ronde digitale, selon la formule pudique, pour dire simplement que dans ces situations sanitaires actuelles, nous sommes bien obligés de rester chacun chez soi. Nous avons Guylaine Dubois pour Radio FM Plus à Montpellier. Bonjour Guylaine.
Bonjour à tous et à toutes. J'ai oublié Délie. Bonjour.
Merci.
Délie Muller de Radio Grille Ouverte à Alès. Bonjour Délie.
Bonjour.
Laurent Keller, Grille Ouverte à Alès également. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Christian Delors pour Radio Alliance Plus Nîmes. Bonjour Christian.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Et moi-même, Joël Baumann, ici au micro.
Bonjour Joël.
Bonjour à vous tous. Content de vous avoir ensemble. Chaque mois, l'idée est de mettre un coup de projecteur sur le dossier central du journal régional protestant, le CEP. Et je salue ici son rédacteur en chef, Nicolas Boutier. Bonjour Nicolas.
Bonjour à tous.
Le sujet que vous proposez ce mois-ci, c'est mondialisation, injustice et solidarité. Avons-nous bien conscience combien nous sommes si interdépendants les uns des autres dans notre petit village planétaire? Imaginez un village de 100 habitants, 52 seraient des femmes, 48 des hommes, 70 seraient adultes, 30 enfants, 58 seraient asiatiques, 14 américains, 14 africains, 14 européens. Et, tenez-vous bien, 6 personnes détiendraient 59% de la richesse totale du village. C'est cela, Nicolas Boutier, qui vous a incité, qui vous a motivé à choisir ce thème de dossier?
Alors, il y a ça, il y a cette interdépendance, mais il y a aussi... les problèmes que l'on connaît. C'est vrai que dans le journal, on aborde les dossiers plutôt d'un côté église, et c'est de réaliser ce que les églises font pour justement éviter les problèmes, les injustices de cette interdépendance, et quelles sont finalement les solidarités qui sont mises en place pour lutter. Alors c'est vrai que le mot interdépendance a bien sûr ses défauts et ses qualités. Voilà, l'interdépendance peut être très mauvaise avec une partie de notre société qui domine le monde et en même temps interdépendance qui permet aussi cette fameuse solidarité, comment aider, comment s'entraider. Alors c'est vrai que quand on a élaboré le dossier, la pandémie que l'on connaît n'avait pas encore eu lieu et je trouve qu'elle a encore plus révélé cette interdépendance, c'est-à-dire que pour reprendre la fameuse expression, un battement d'aile de papillons au Brésil peut provoquer une tornade au Texas. Mmh. Et c'est un peu ce dans quoi on vit en ce moment. Alors, c'est vrai que le dossier essaie de dénoncer certaines inégalités et tente d'apporter quelques pistes de réponse, sachant que les églises avec lesquelles nous sommes partenaires, avec lesquelles nous travaillons, alertent constamment à leur niveau les politiques sur les conséquences des actes qu'ils peuvent et des décisions qu'ils peuvent avoir
d'accord.
Sur ce qui se passe.
Alors, on verra tout ça. Pour introduire ce débat, justement, Laurent, vous avez apporté l'enregistrement d'un premier témoin dans notre débat.
Oui, il s'agit d'Emmanuel de Barry, vice-président du Conseil national de l'Église protestante unie de France, et qui est également engagé dans l'entraide protestante d'Alès. Il habite dans le département du Gard et je lui ai demandé de lire les articles et de commenter certains d'entre eux et il s'est volontiers prêté à l'exercice.
Nous l'écoutons.
Je peux dire que le scoutisme est très important dans tous les moyens de résistance partout, que les femmes qui, au XXe siècle, et dans le début du XXIe siècle, on marque les actions du protestantisme, sont toutes plus ou moins passées par le scoutisme. Ce sont souvent des femmes assez remarquables. Je pense comme ça à la CAT, par exemple, qui a été fondée par Nello Angel et Edith Le Gall du Tertre. Je pense à la CIMAD, fondée par Madeleine Barrot et présidée il n'y a pas encore longtemps par Geneviève Jacques. Je pense à un certain nombre de femmes comme ça, absolument extraordinaires. Et souvent, on ne voit pas dans les expositions où on met en avant les femmes protestantes. Sur la COP21, je retiens qu'on est loin de compte par rapport aux engagements de la France. Je retiens qu'il y a eu ce procès, l'affaire du siècle. Ce procès montre bien la confusion dans laquelle nous sommes. Dans les plaignants, il y a l'ancien ministre de la transition écologique, Nicolas Hulot, et dans le procès, il y a un commissaire du gouvernement qui représente le gouvernement et qui attaque le gouvernement. Et pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Parce qu'on est tous intéressés à la chose, on est tous du côté du gouvernement, du côté des plaignants, du côté du juge, du côté de ceci. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Parce qu'il y a des intérêts financiers qui bloquent les actions. Je vois un article sur les jeunes sont des acteurs clés pour la paix. Je trouve que c'est la société qui est un acteur. Chacun est un acteur clé pour la paix. Je n'aime pas les segmentations jeunes, vieux. Dans la pandémie actuelle, il faut sauver les vieux et les protéger et les mettre à part. Les jeunes sont pour la paix. Zut, on est tous ensemble. Il faut agir ensemble, solidairement. Le mot interdépendant revient souvent. C'est très important, l'interdépendance. Parce qu'on est complètement interdépendants. La justice est ce qui est fondamental dans tous les combats. Le but est d'obtenir justice. C'est pour ça que, on reprend mon premier propos sur le procès du siècle, là, contre le manque de résultats par rapport aux objectifs de la COP21. Je pense qu'on a commencé par ce procès qui cherche une justice, mais c'est bien le but. Toutes nos luttes doivent arriver à plus de justice pour tout le vivant sur la planète. Plantes, animaux et humains. Je pense qu'il faut repérer les causes de l'injustice et lutter contre. Il y a des gens qui ont faim, c'est injuste. Il y a des gens qui ont froid, c'est injuste. Il y a des gens qui n'ont pas d'eau pour boire ou pour se laver, c'est injuste. Il y a des gens qui n'ont pas de toit, c'est injuste. Il y a des gens qui n'ont pas de travail, c'est injuste. Il faut lutter dans des œuvres, à travers des associations, lutter à travers des procès, quand il y a quelqu'un qui est en faute ou une organisation qui est en faute. Et puis pour terminer, je trouve que l'autre c'est moi, le paradis c'est les autres. Je trouve que avec l'abbé Pierre, on peut dire que l'enfer, c'est soi-même coupé des autres. Et que donc le paradis, c'est avec les autres. Le paradis, maintenant, c'est quand on est solidaire de tout le monde pour chercher la justice.
Alors, Christian Delors, c'est vous qui animez la table ronde et je vous laisse maintenant la parole.
Bien, De Barry, dans son message, insiste sur le rôle des femmes. C'est une des premières remarques que j'ai à faire. Est-ce que dans les églises, dans nos églises, ici dans le Midi, les femmes ont un rôle particulier dans ce domaine du plaidoyer ou de l'action sociale au profit de peut-être d'autres pays, d'autres régions? Dans quel domaine?
Peut-être ce que je peux témoigner, en tout cas...
C'est Guylaine Dubois.
Oui, voilà, dans notre église protestante de cette région d'Occitanie, et particulièrement à Sète notamment, ce que je peux constater quand je fais de l'entraide dans l'église, c'est que ce sont les femmes qui viennent au secours de leur famille, récolter ce qu'on leur propose. Nous, on donne des cartes alimentaires, et ce sont les femmes qui viennent pour toute la famille, et que des femmes. Chaque fois que je fais les permanences, et toutes les permanences, et si je regarde les statistiques, ce sont des femmes qui se déplacent. Alors, voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, Christian, mais ce que je veux dire, c'est qu'elles sont les premières en première ligne.
C'est donc la solidarité ici en France, dans nos régions, et à travers le monde, pour les actions qu'on peut mener à travers le monde au profit d'autres régions. Est-ce que c'est aussi le cas, ou bien est-ce qu'il y a d'autres actions dont on pourrait parler?
Si on parle des radios, par exemple sur RGO, Radio Grille Ouverte, Emmanuel de Barry parlait de l'ACAT, et en effet, les personnes qui viennent à la radio pour présenter leur émission et présenter les actions de l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture, ce sont des femmes, oui.
Là aussi, ce sont des femmes.
Oui, je peux rajouter
Déli Muller.
Je peux rajouter aussi, à RGO, sur Alès, beaucoup d'émissions sociales, ou sur les droits humains, Amnesty International aussi, ce sont des femmes. Alors, c'est moins une association d'église. Enfin, sur des grands thèmes comme ça, il y a beaucoup sur des thèmes de solidarité, ce sont beaucoup de femmes qui viennent en parler, effectivement.
Oui, Nicolas Boutier, le CEP.
C'est intéressant parce qu'on voit que dans notre société, ce sont à la fois les femmes qui sont peut-être souvent le plus engagées dans ces combats et sont souvent les premières victimes. Il y a un article très intéressant dans ce dossier de Jane Strand qui représente le groupe Orsay et qui justement dit que derrière chaque homme en difficulté, il y a souvent une femme qui est encore plus en difficulté. Et on oublie en fait dans un grand problème, on va dire dans une misère générale, on oublie de faire une différence de genre entre, en parlant des humains, mais finalement il y a souvent des difficultés plus grandes pour les femmes. Et en particulier de besoins assez basiques. Je vois que là, en ce moment, dans le CEP, revient cette demande de problèmes d'hygiène basiques pour les femmes, qui sont souvent plus importants que pour les hommes. Je trouve que c'est assez intéressant à la fois, ce sont celles qui se battent le plus et celles qui ont souvent le plus besoin d'aide aussi.
Un peu dans le sens de ce que disait Guylaine Dubois à propos de CEP, je crois, ici à Nîmes aussi, au niveau de l'accueil des migrants que fait l'Église protestante unie, on se rend compte que la plupart des personnes qui ont été les premières auprès des jeunes Afghans, déjà il y a 10 ans, mais encore aujourd'hui, ce sont des femmes. Et sans elles, je crois que nos jeunes amis étrangers auraient eu beaucoup de peine à s'organiser ici. Oui, Délie Muller.
Donc moi j'ai une question, là je réagis un peu à chaud comme ça, la réflexion n'est peut-être pas très poussée. Est-ce que l'engagement des femmes vient du fait que beaucoup à l'époque, j'entends bien, ne travaillaient pas et on a encore toute une génération de femmes qui ont peu travaillé. C'est vrai que maintenant c'est quand même différent puisque de plus en plus de femmes travaillent. Quand elles ont la chance d'en trouver un, on risque d'avoir de fortes déconvenues cette année et peut-être les années qui vont suivre où le problème va être encore plus crucial. Mais est-ce que ces femmes-là ne se sont pas justement engagées parce qu'elles avaient un petit peu plus de liberté que les hommes et que du coup, c'est resté? Voilà, je ne sais pas, c'est une question que je me pose.
Nicolas Boutier.
C'est très intéressant, Délie, ce que tu dis, parce que quand on travaille, à travers la région, quand je me promène à la découverte des différentes associations sociales ou œuvres qui ont été fondées, c'est très souvent par des femmes protestantes et on peut supposer en effet qu'elles avaient, alors le mot est un peu bizarre, mais le loisir en fait de s'occuper de ces associations et souvent les moyens financiers de leur mari qui les aidaient à monter et à financer le travail qu'elles allaient faire. Ce qui va être intéressant, c'est en effet dans les années à venir de voir si les femmes ont toujours une place prépondérante qui montrerait qu'elles ont souvent une capacité bien plus grande que les hommes à travailler quand on voit ce qu'elles peuvent faire entre leur vie de famille, leur travail, plus parfois leur engagement. Donc voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer ou est-ce que finalement, c'est finalement les femmes qui mènent l'avenir du monde?
Et puis, est-ce que l'action, puisqu'elles sont dans l'action, est-ce qu'elles convainquent leur communauté, est-ce qu'elles convainquent l'ensemble de leur communauté de les suivre dans cette voie? C'est parfois la difficulté qu'on peut voir aussi, c'est que tout le monde n'est pas convaincu et que ces groupes qui œuvrent, eh bien, ils sont finalement, parfois ils sont restreints, ils restent restreints.
On rejoint là deux questions qui sont soulevées dans le dossier, la question de la sensibilisation des églises et la question du plaidoyer. On ne pourra pas aborder tout cela maintenant, mais j'ai trouvé dans le dossier que très, très intéressant cet accent. Voilà, nous allons faire une petite pause musicale.
Victime de la terre, oh, 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 oh.
Nous prétendons tous être désolés,
silencieux et immobiles.
On attend de voir les choses changer,
solidarité stérile.
puisqu'on est désolé.
Peut-on se sentir léger,
la conscience apaisée,
puisqu'il suffit d'être désolé. Désolé.
Est-ce qu'il suffit d'être désolé?
Dans le confort de nos vies bien installées, tout ce qu'on sait dire c'est nous sommes désolés.
Les espoirs peuvent bien s'écrouler et le sang continuera à couler devant nos télés pour se justifier. Tout ce qu'on sait dire c'est nous sommes désolés. Désolés sans se mettre en danger. Les choses finiront bien par s'arranger devant nos télés. Nous sommes désolés.
On veut bien être désolé,
du moins en apparence.
C'est déjà bien d'être concerné. On peut pas porter leur souffrance.
On veut bien être désolé,
mais que l'horreur garde ses distances.
Il n'est plus question de vrai,
qu'il suffit d'être désolé.
Désolé.
Est-ce qu'il suffit d'être désolé?
Dans le confort de nos vies bien installées, tout ce qu'on sait dire c'est nous sommes désolés.
Les espoirs peuvent bien s'écrouler et le sang continuera à couler devant nos télés pour se justifier. C'est dire si nous sommes désolés. Désolés sans se mettre en danger. Les choses finiront bien par s'arranger devant nos télés. Nous sommes désolés.
C'était l'extrait d'une chanson interprétée par un collectif d'artistes engagés pour, à l'époque, Haïti, Espoir pour Haïti, et organisé par l'association Action contre la faim. Alors Guylaine, vous avez amené de Radio FM+, un témoin également, un enregistrement de quelqu'un. Parlez-nous en plus.
Alors il s'agit en effet d'Alexandre, qui est un jeune Montpelliérain de 23 ans, qui n'est pas dans nos milieux d'église, mais que j'ai interpellé parce que c'est un engagé dans toutes les manifestations internationales qu'il y a sur Montpellier, qui va militer. C'est un militant de la cause mondiale. Et donc, j'avais voulu l'entendre voilà, à ce sujet-là, sur cette mondialisation et surtout sur cette notion d'interdépendance sur laquelle peut-être nous reviendrons.
D'accord.
Bonjour Alexandre.
Bonjour Guylaine.
Merci d'avoir répondu à cette interview. Ça nous intéressait de comprendre l'altermondialisation, la mondialisation, injustice et solidarité. Voilà, qu'est-ce qui unit ces univers-là?
L'altermondialisme, pour moi, c'est juste à partir du moment où on n'est pas pour ce système de mondialisation actuel et qu'on essaye de réfléchir à un autre système pour le monde.
Alors, dans ce dossier du CEP, hein, mondialisation, injustice, solidarité, il y a le terme et la notion d'interdépendance. Est-ce que, lorsqu'on pense une vision d'une société autre, pour vous, Alexandre Montpelliérain, l'interdépendance est négative?
Il y a beaucoup de problèmes avec cette interdépendance, que ce soit pour les petits pays, les petites puissances, qui sont plus ou moins gérés au final par l'Occident et par les grosses puissances, ou aussi justement l'Occident qui a besoin de ces petits pays pour délocaliser. On entend beaucoup parler de délocalisation, de choses comme ça, de la part des corporations, pour que ça leur coûte moins cher, par exemple. Et au final, c'est plutôt, quand on voit la réalité du terrain dans ces pays-là, c'est plutôt de l'exploitation en fait des humains que cette mondialisation entraîne, ces délocalisations entraînent.
Comment est-ce que cette interdépendance se manifeste ici, à tes yeux, à Montpellier?
Cette interdépendance, déjà on le voit par rapport aux populations qui sont là, donc les populations immigrées. Et, donc c'est pas forcément une mauvaise chose, parce que je considère de tout temps, l'homme s'est déplacé sur la Terre, a mélangé ses cultures, ça peut être une richesse. Et ça peut aussi, eh bien, on le voit dans le monde actuel, quand les gens se déplacent beaucoup, donc eh bien, il y a les immigrés économiques, on va dire, et bientôt il y aura aussi les immigrés climatiques, c'est parce qu'il y a des problèmes chez eux. Ils arrivent ici et eh bien, on ne s'en occupe pas non plus, alors que bon, ça peut être de la faute, pas de notre faute personnelle, mais de la faute de nos gérants, de nos États et des corporations aussi. Bah, le fait qu'ils se retrouvent ici et on les laisse un peu démunis comme ça, on voit très bien quand même les populations pauvres qu'il y a ici. Je ne dis pas qu'ils sont tous immigrés, mais c'est vrai qu'il y a une bonne partie qui le sont.
À quel niveau est-ce que pour vous la solidarité deviendrait effective ? Réel.
Eh bien, il faudrait que ça vienne de tous les niveaux. Il faut autant que ça vienne d'actions individuelles que d'actions collectives. Donc, des actions collectives soient faites par des associations ou des collectifs de gens, justement, qui font des actions individuelles. Et aussi de la part des institutions, donc qu'elles soient religieuses ou étatiques ou autres, il faut que ça vienne de tous les niveaux parce que aussi ça commence à l'individuel, mais c'est l'État et les institutions qui peuvent légiférer tout ça, qui peuvent avoir vraiment aussi un poids parce que on le voit avec justement plusieurs types d'actions individuelles que c'est plutôt réprimé, voire considéré carrément comme illégal par l'État, alors que ça ne le devrait pas. Et donc ça entrave justement cette volonté de solidarité et d'action solidaire.
Merci.
Oui, c'est effectivement sur cette question de l'interdépendance que je comptais nous interpeller les uns et les autres.
Oui, moi je trouve vraiment intéressant ce que Alexandre a à nous dire en fait. À la fois le côté négatif de l'interdépendance et celui sur lequel d'ailleurs il insiste le plus, hein, où des petits pays sont surexploités par des sociétés dites occidentales. Et en même temps, il parle d'accueil, en fait, avec cette interdépendance dans les villes. Ben, il parle de Montpellier, qu'il connaît bien, où il y a une population immigrée que l'on voit, enfin, qui est visible et qui se mélange à la population dite autochtone. Et c'est pour lui une très grande richesse. Et après, bien sûr, il y a les gros revers de cette autre interdépendance qui sont les émigrés, enfin les grands courants migratoires que l'on connaît aujourd'hui, à la fois pour le climat et pour des raisons économiques. Et c'est vrai que son témoignage ou son engagement dans les sociétés qu'il aborde est très intéressant. Et j'ai d'ailleurs à un moment noté qu'il parlait même de l'engagement des églises. Alors je me suis
l'engagement
des églises, pardon.
Oui.
Et j'étais assez étonné qu'il utilise ce mot. Alors, il a été un peu titillé pendant son interview, mais c'était intéressant qu'il utilise le mot pour un intermondialiste. C'est plutôt, voilà, c'est plutôt des signes aussi encourageants pour nous.
Du côté d'Alès, dans les Cévennes, est-ce qu'il a des actions dans le domaine de l'interdépendance, des réflexions qui sont menées ici ou là?
Moi, ce qui me frappe, en tout cas, c'est la transition qui, au niveau de la mondialisation, va être assurée par les mêmes groupes qui ont mené le monde jusqu'où il en est aujourd'hui. Et c'est à eux qu'on continue de laisser les clés, en fait. Sur Alès, par exemple, si je remonte un peu en arrière, la crise du charbon, on sait, a laissé le bassin industriel alésien exsangue. Et puis, il est arrivé des industries qui se sont installées là par opportunisme. Mais ça, c'était il y a 20 ans. Et il se trouve que 20 ans plus tard, ça recommence ici. On voit des entreprises qui profitent de cette crise épidémique pour s'en aller pour des raisons financières. Tout simplement, l'usine fonctionne bien, elle a des commandes, elle travaille avec des industries qui fonctionnent, mais eux s'en vont parce que les actionnaires veulent leur argent.
Et du point de vue des églises, est-ce que nos églises, ici, dans le Midi, dans le Gard, dans l'Hérault, agissent dans ce domaine? Est-ce qu'elles accueillent des étrangers, effectivement? Comment interviennent-elles?
Il y a beaucoup d'endroits, hein, il y a beaucoup de paroisses qui accueillent des migrants qui se mettent là pour aider à leur accueil aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer, soit en accueillant elles-mêmes des familles, soit en trouvant des moyens pour aider en distribution de nourriture ou pour aider à faire les papiers, les dossiers qui sont particulièrement compliqués pour quelqu'un qui arriverait et qui ne parle pas notre langue. Donc je pense que les églises sont très très engagées sur ce sujet-là.
Oui, Nicolas.
Excusez-moi, je prends la parole.
Non, mais c'est vrai.
Non, mais c'est vrai qu'il y a, enfin, c'est très intéressant et on voit que alors là, on va prendre des églises chrétiennes en sens général, parce que c'est beaucoup un mouvement œcuménique qui se joue à ce niveau-là. Il y a plusieurs façons, en fait, de sensibiliser, à la fois par la diaconie, le plaidoyer, comme on vient d'en parler, et puis des interventions. Parce qu'il ne faut pas l'oublier que, avec certaines missions de nos églises, il y a des interventions qui se font en local, aux endroits où ça va le plus mal, ou chez nous, aux endroits aussi où on accueille des personnes en difficulté.
Délie Muller, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, donc je voulais dire revenir un petit peu justement localement, en disant que localement, en fait, est-ce qu'on a vraiment le choix de toutes les associations qui s'investissent, que ce soit effectivement sur l'accueil des étrangers, à l'entraide? Alors, le panel va des chrétiens jusqu'aux... Enfin, voilà, bon, c'est très large, hein, toutes les associations appartenant à diverses grandes, comment dire, voilà, la Croix-Rouge, enfin, pour ne prendre que des grandes structures, institutions. Et en fait, sur le terrain, le travail est un petit peu divisé parce que les autorités, les institutions politiques ne délivrent de l'argent que sur certains critères. Et donc, finalement, il y a un partage des tâches, tel fera la distribution sur la distribution alimentaire, par exemple, sur les environs d'Alès, d'autres feront sur le centre d'Alès, certains feront les étrangers de tel truc, l'accueil scolaire et l'aide scolaire. Et bon, voilà. Et du coup, il y a quand même une obligation de se retrouver ensemble pour porter une même voix, parce que le combat, quelle que soit l'institution, l'église ou l'association dans laquelle on milite et on est actif, l'action, enfin, à l'arrivée, c'est toujours la même chose. C'est le même public, et du coup, ben, beaucoup d'associations se mettent ensemble pour porter d'une seule voix déjà au niveau des institutions politiques du département, de la région Occitanie, et puis après certains vont plus loin.
Bien, je crois qu'on a dit pas mal de choses, il y aurait encore beaucoup, beaucoup à dire certainement, mais nous pensons que ça, c'était bien de remercier en tout cas le CEP et son directeur d'avoir proposé ce dossier, de nous avoir sensibilisés à cette question. Je pense que beaucoup seront intéressés, et aussi parmi les auditeurs, les auditrices de notre émission.
Merci Christian. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site d'une de nos trois radios ou lire le dossier dans le CEP au numéro de février.
Alors le thème du dossier du mois prochain en mars, donc quel sera-t-il, Nicolas Boutier ?
Jardin, mais paradis sur terre. Un beau oui. Thème de printemps en perspective.
D'accord. Eh bien, nous resterons avec cette petite fleur à la boutonnière et nous vous saluons tous. Au revoir tout le monde autour de cette table. Et
merci. Je dis
merci. Et au revoir, à bientôt.
Au revoir. Et à toutes et tous, à bientôt.
C'était Voix d'Église, l'émission collaborative des radios Alliance Plus, FM Plus et Radio Grille Ouverte.